qu'avec Anem. Bonjour, merci d'avoir choisi d'écouter le deuxième volume de ce Café Canem qui aujourd'hui est animé en direct de la cathédrale de Chartres, comme vous l'entendez. Nous allons nous pencher, comme à chaque fois, sur quatre disques. Non, déjà je me trompe car il ne s'agit pas de quatre disques mais de trois disques, deux disques d'actualité, un disque de référence et d'une prise de rôle, celle de Placido Domingo dans le rôle de Bajazet dans le Tamerlano de Handel. Alors on va commencer par le premier disque qui est Médée de Stéphanie Doustrac. Médée furieuse. Qui est le premier disque de Stéphanie Doustrac qu'elle consacre au personnage peu recommandable de Médée. Alors pour ceux qui l'ignorent, Médée est la fille d'Étès, roi de Colchide, mais aussi l'ex-épouse de Jason, chef des Argonautes. Médée a tué plusieurs personnes, parmi lesquelles Apsyrtos, qu'elle a découpé en morceaux, mais l'histoire ne dit pas si elle les a fait rissoler, mais aussi le roi Pélias, qu'elle a fait bouillir dans un chaudron, ainsi que sa rivale Créeuse et le père de celle-ci, qu'elle brûle vif, après avoir oxy sa fille à l'aide d'une robe empoisonnée. Elle tue ses propres enfants, ce qui provoqua le suicide légitime du pauvre Jason, qui était un peu le Sylvain Fort de l'Antiquité. Rentrée chez elle, elle tue enfin son père, Persès, qui a donné son nom à une chaise. Le mythe de Médée est donc incontournable, et Stéphanie Doustrac, dans son album, qui compte Doustrac, je les enchaîne, collectionne quatre lectures de ce mythe, celles des compositeurs Lully, Clérambeau, Bernier et Giannettini. C'est un extrait de Médéa in Athénée, c'est comme ça qu'on prononce, in Athénée, qu'on doit à ce dernier que vous allez entendre, ce dernier étant Giannetti. Il s'agit du récitatif et de l'air Amare et Tacere. Voilà, c'était donc Amare et Thatcher, et chanté par la magnifique Stéphanie Doustrac dans son album Médée Furieuse. J'ai aujourd'hui à cette table trois critiques éminents. Sylvain Faure de Diapason et de Forum Opéra. Bonjour Sylvain.
Bonjour.
Jean-Philippe Thiellet.
Bonjour.
Les Nouvelles du Vatican. Et Mehdi Madavid, Alta Musica. Bonjour Mehdi.
Bonjour.
Donc Médée Furieuse, le premier album de Stéphanie Doustrac, qui rappelle un peu le concept du dernier album d'Agnès Mellon, qui était consacré aux déesses outragées. D'ailleurs, il y avait la cantate Médée de Clérambault sur ce disque. Alors, je me retourne vers le spécialiste de ces musiques soporifiques, qui est Mehdi Madavid. Est-ce que tu as eu le courage, Mehdi, d'écouter ce disque ?
Avec beaucoup d'attention, d'ailleurs, j'ai écouté ce disque... qui d'ailleurs est recommandable, en ce qu'il présente des œuvres rarement jouées et qu'il nous fait découvrir justement cette Medea in Atene de Giannettini, qui est donc un opéra vénitien entre Cavalli et Scarlatti, et qui nous apprend pas mal de choses sur la structure nouvelle de l'aria qui se crée sur les formes closes. Et d'ailleurs, l'extrait que nous venons de passer est, à mon sens, le plus beau du disque.
Je ne l'ai pas choisi de manière anodine.
Et alors, même si Stéphanie Doustrac a une diction un peu relâchée en italien, c'est dans cet air que sa voix s'épanouit le plus.
Alors je vois Jean-Philippe Thiellet, qui a longtemps travaillé en Italie, qui n'a pas l'air d'être d'accord sur le fait que Stéphanie Doustrac est un italien pâteux.
Il y a 36 prononciations de l'italien, donc on peut avoir son non personnel. Non, ça m'a pas choqué, la prononciation de l'italien. Autant on pourra parler de Chris Merritt tout à l'heure, puisqu'il faut bien trouver quelque chose à critiquer. Il y a quelques erreurs de prononciation. Autant là, ça m'a pas choqué néanmoins.
La question que je me suis posée entre l'extrait de Thésée de Lully et le Giannettini, mais en quelle langue est-elle en train de chanter ? Il a fallu que je m'habitue à son italien après le français. Je me suis demandé si elle continuait à chanter en français ou si c'était de l'italien.
Sur le plan vocal, que peut-on dire de... C'est pas les répertoires les plus exigeants vocalement.
Alors, sur le plan vocal, alors, la cantate de Clérambault est quand même assez exigeante en termes d'ambitus. Et c'est là un peu le talon d'Achille, à mon sens, de Stéphanie Doustrac, puisque l'aigu est assez laborieux, le grave est assez écrasé, le médium est très beau, très pulpeux, et c'est ce qui ressort justement de cet extrait.
C'est ce qui fait un peu la marque de fabrique de Stéphanie Doustrac et son succès dans ce répertoire-là, c'est que son médium est vraiment reconnaissable, c'est... plein d'harmoniques, grave... Sylvain, ce répertoire, généralement, ne te dit pas grand-chose. Alors, est-ce que, pour une fois, tu as fait une exception ?
Oui, il est très très bien, l'après-midi, en buvant son café, en bruit de fond. Quand le monde arrive sur mon bureau,
est-ce que c'est le,
que la, je découvre la... les nouvelles, et que mon café fume sur la table, je mets Stéphanie Doustrac dans Médée Furieuse et je m'endors.
Tu as interviewé Stéphanie Doustrac, si je me souviens bien.
Non, jamais de la vie.
Non, il y avait très belle interview de Stéphanie Doustrac sur Forum Opéra.
Oui, mais qui n'avait pas été faite par moi, mais qui était très bien, et Stéphanie Doustrac est une formidable chanteuse.
Jean-Philippe.
Même opinion, si ce n'est que moi je n'ai pas l'avantage de recevoir le monde à 14h sur mon bureau, mais non, elle fait aussi bien qu'on peut faire avec ça. Je trouve qu'elle y met son talent, sa personnalité, l'harmonie, enfin l'équilibre avec les musiciens est bon. C'est un vrai disque de musique, il y a de la musique, voilà.
Alors justement,
quand on aime ça, on adorera. Oui.
À propos du concept de Médée Furieuse, on sait que depuis que Bartoli est arrivé sur le marché, la mode est au disque à concept. Alors ici, on a une alternance de figures de Médée et puis aussi de pièces orchestrales contemporaines. Je parle contemporaines des compositeurs qu'on a cités, ça va de soi. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce genre de concept ? Médée, évidemment, on l'a vu, c'est quelqu'un de très peu recommandable, c'est une figure dramatique passionnante, mais est-ce que sur ce disque, on ressent vraiment à quel point Médée est un personnage fondamental de l'Antiquité ?
Il y a plusieurs disques dans les productions. Il y a soit le disque carte de visite, que notamment là c'est un premier récital, sauf erreur. Donc les éditeurs peuvent aussi choisir de faire présenter par leur artiste tout ce qu'il peut dans des répertoires différents pour que éventuellement les maisons de théâtre puissent après aller y piocher. C'est pas ce concept-là.
C'est plus une démarche d'agent que de.
Ouais. Et je dois dire que moi je trouve ça intelligent, intéressant. Si c'est appuyé sur un livret bien fait, ça rend le disque enrichissant.
Voilà. Donc c'est
mais ce qui est quand même intéressant au-delà du concept, plus qu'un concept, c'est quand même que précisément dans ces opéras baroques, il y a quand même une très très forte récurrence des arguments, une très forte récurrence des héros antiques. Et c'est toujours intéressant de mettre côte à côte le traitement qui est donné à certains personnages. Ce que je veux dire par là, c'est que dans ce répertoire, je trouve que ça s'impose d'une certaine manière, ou qu'en tout cas, c'est des éclairages bienvenus. Ensuite, l'aspect historique lui-même, c'est-à-dire ce que disait Mehdi sur la façon dont sont traitées les formes, les arias, etc., enrichit cette façon de faire. Je trouve que du coup, on a vraiment un disque historiquement intéressant.
Et puis entre la manière italienne et la manière française de traiter aussi bien le récitatif que l'air. C'est un disque recommandable, surtout pour son répertoire. Moi, je n'ai pas été saisi par l'interprétation, mais en tout cas pour découvrir le chaînon manquant de l'opéra vénitien.
Est-ce que tu as déjà entendu Stéphanie d'Oustrac, Mehdi, dans d'autres répertoires?
Alors, j'ai entendu Stéphanie d'Oustrac dans La Belle Hélène d'Offenbach, à l'Opéra du Rhin, qui pour moi est un de ses meilleurs rôles.
Mais oui, mais c'est ça, en fait. Quand
Elle a annoncé aussi un passage progressif, je sais pas quand ça arrivera, mais vers certaines œuvres du bel canto aussi.
Oui, moi je l'ai entendu dans du Mozart où elle est formidable. Et en fait, on se demande si elle n'est pas obligée dans ce répertoire de compromettre ses moyens vocaux qui sont vraiment, pas imposants, mais enfin qui sont réels. Elle a une très belle projection.
Je trouve pas que ses moyens vocaux soient imposants. Je trouve la voix assez fine, au contraire.
La voix est ronde, elle est assez lumineuse.
Je trouve que la voix est très bien captée. Elle apparaît très riche. Et que cette richesse disparaît un peu à la scène.
Ah oui, non, moi j'ai pas
trouvé. Surtout dans des rôles à l'étendue un peu large.
On peut peut-être ici souligner la prise de son de Nicolas Bartholomé, dont Ambroisie est le label, ou en tout cas a-t-il le label, vu qu'il a été racheté par Naïve.
Juste un mot sur l'émission aussi. Alors ça, je dois dire, soit on aime, soit on n'aime pas, mais moi, au bout de 3 minutes, ça me saoule de prendre toutes les notes, de les blanchir. Alors c'est peut-être comme ça qu'il faut le chanter. Et donc c'est mon oreille et mon cerveau qui ne sont pas adaptés à ça, mais je trouve que ça génère un effet de lassitude terrible, cette manière de systématiquement prendre la petite note qui précède la note en la blanchissant, puis avant de lui donner une quelconque couleur, de manière un peu systématique.
C'est-à-dire qu'au départ, elle est blanche et après, elle est raide, ce qui est quand même...
Blanche, raide, et puis un petit peu de vibrato quand on se laisse aller sur la fin, mais seulement quand on se laisse aller.
Je crois que c'est plus une question...
C'est systématique dans la mesure où ça n'est pas soutenu par une intention rhétorique précise.
Voilà, alors, je rappelle, mais des Furieuses chez Ambroisie, un disque qu'apparemment vous recommandez, mais du bout des lèvres. Nous allons passer maintenant à la prise de rôle fulgurante de Placido Domingo. Alors, on le sait, Placido Domingo, âgé de 67 ans et près de 50 ans après avoir fait ses débuts à la scène, notre sémillante amie madrilène nous livre enfin sa vision de Bajazet de Tamerlano, l'un des rôles de ténor les plus intéressants du répertoire baroque. Alors, on le sait, Placido a défendu près de 120 rôles sur scène. C'est d'ailleurs son 126e rôle. Il les compte un par un. Il passe allègrement de Rameau à l'opéra contemporain, sans oublier d'aller dire bonjour du côté de Wagner. Mais cette fois, il endosse donc la cuirasse reluisante du patriarche Bajazet à Madrid et à Washington et prévoit de rechanter le rôle à Covent Garden en 2010. Alors, Placido dans Handel, bonne ou mauvaise idée, à vous de juger. On écoute un extrait de La mort de Bajazet.
Siete, la
C'était donc la mort de Bajazet par Placido Domingo dans le Tamerlano de Handel, direction de Paul Macriche, et c'est l'orchestre du Teatro Real de Madrid. Jean-Philippe.
C'est admirable par le fait que ça existe. Le fait même que ça existe est admirable. J'aurais aimé que quelqu'un comme Roberto Alagna puisse nous annoncer son 126e rôle.
Il n'en est pas encore à ses 67 printemps. Mais raison de plus, Roberto.
Oui, mais raison de plus, on a des raisons de douter. Donc voilà, stylistiquement, je ne me prononcerai pas parce que c'est Placido Domingo.
Et parce que tu n'as pas écouté les disques.
C'est-à-dire que s'il m'avait été envoyé plus tôt, j'aurais peut-être pu faire un effort.
Mehdi, toi qui es le spécialiste incontesté de la musique ancienne et des vieilleries, je crois que tu es doublement qualifié pour parler de cette prise de rôle.
Alors, d'abord, j'aimerais parler du contexte historique lié à la voix de ténor. L'opéra est né avec la voix de ténor comme référent, puisque Jacopo Peri, Giulio Caccini eux-mêmes étaient ténors. C'est fondateur de l'opéra avec Leo Lidice, créé en 1600. Et une des plus grandes figures du chant du XVIIe siècle est Francesco Rasi, qui est le créateur de l'Orfeo de Monteverdi, qui était lui-même ténor, ou plutôt baryténor. Et puis, la voix de ténor connaît une espèce d'éclipse pour être reléguée aux utilités, jusqu'à ce qu'apparaisse, au début du XVIIIe siècle, le ténor Francesco Borosini, pour lequel ont été composés un certain nombre de rôles à la cour de Vienne, dont le Don Quichotte de Conti, qui a été recréé par René Jacobs il y a quelques années au Festival de Beaune ainsi qu'au Festival d'Innsbruck, et qui montre l'étendue absolument gigantesque de la voix de Borosini, qui était presque un baryton dans l'acception moderne du terme au niveau de l'étendue et même de la tessiture. Donc il était normal, quelque part, que Placido Domingo ait envie à ce stade de sa carrière, puisqu'il voulait chanter Handel, qu'il se confronte à ce rôle qui a été modifié expressément par Handel, qui avait terminé la partition avant l'arrivée de Borosini à Londres, à l'arrivée de celui-ci, justement, puisque Borosini est arrivé avec, dans ses bagages, le livret d'un Bajazet qui avait été adapté pour lui, et dont il était l'inspirateur, d'ailleurs. Et Handel, dont l'opéra était prêt, a emprunté à ce livret toute la scène de la mort que nous venons d'écouter, justement, dont le texte serait de Borosini. Alors, ce qui frappe à l'écoute de cet extrait, c'est d'abord l'adéquation vocale actuelle de Domingo avec la tessiture, l'étendue de Borosini. Et puis la couleur aussi, qui est de plus en plus baritonnante. Après, on pourra chicaner sur une voix qui semble parfois un peu à l'étroit dans le carcan endélien. Mais quel modèle dans les récitatifs ? Quel modèle de déclamation ? J'étais je n'ai pas de mots pour décrire l'émotion qui m'a envahi, à vrai dire, en écoutant ce Tamerlano, qui est dirigé par Paul Macriche, bien plus intéressant en éducateur d'orchestre moderne que face à son propre ensemble, je dois dire. Et puis il y a, dans le rôle d'Andronico, qui était tenu à l'époque par la star de l'Académie royale, The Royal Academy of Music,
bravo.
À l'époque de Handel, qui était le Castra Senesino, il y a dans ce rôle Sarah Mingardo, qui signe une prestation absolument magnifique aussi. Donc, j'aurais aimé...
On peut peut-être justement dire un mot des autres interprètes de cette de cette captation live de Madrid, qui sont Monica Baccelli dans le rôle titre de Tamerlano et de Ingela Bolin, fabuleuse dans le rôle d'Asteria. Franchement, j'ai trouvé Ingela Bolin absolument hallucinante dans ce rôle. Mais outre les aspects dont vous parlez tous les deux, Jean-Philippe, Mehdi, et je vais donner la parole dans un instant à Sylvain Faure qui trépigne, j'aimerais quand même insister sur un point. On parle évidemment d'une prise de rôle qui a l'air très réussi, mais d'un homme de 67 ans. C'est incroyable. Et en plus, il y a des gens sur Internet qui spéculent sur son âge en disant qu'il a plus de 67 ans, ce qui n'est pas forcément faux, vu qu'il fait ses débuts il y a 50 ans tout juste. Ça voudrait dire qu'il aurait fait ses débuts à la scène à 17 ans. Ça paraît un peu invraisemblable. Alors, bon, avant de revenir sur cet aspect de cette prise de rôle, je vais donner la parole à Sylvain.
Pour savoir s'il a vraiment 67 ans ?
Non, ça, lui seul le sait, mais...
Effectivement, il est souvent donné comme étant né en 1934 et non en 1941.
Notamment par le dictionnaire de l'opéra de Fayard.
Absolument, mais aussi par les mémoires de la femme de Giuseppe Di Stefano, qui a publié une biographie de son mari à la glorieuse époque de celui-ci, et qui fait part du fait qu'un jeune ténor vient rendre visite à Giuseppe Di Stefano à la fin d'un spectacle dans les coulisses, et que ce ténor, c'est Placido Domingo. Or, si Placido Domingo était né en 1941, au moment où il est venu trouver Giuseppe Di Stefano dans les coulisses, il était alors âgé de 11 ans et demi, ce qui fait un peu jeune pour un jeune ténor.
Oui, tout à fait.
Donc on peut penser qu'effectivement, Placido Domingo est en réalité âgé de 74 ans, ce qui donne le vertige. Enfin, sur son incarnation, je trouve formidable que Mehdi soit capable d'accepter et soit ému par des voix qui ne sont pas des voix issues du sérail baroque. Mais je m'interroge sur une chose, c'est d'où vient que dans Handel aujourd'hui, on distribue des voix justement formées beaucoup au répertoire baroque, alors que dans les années 80, on y distribuait des voix plus volontiers, disons mozartiennes au sens large, avec une capacité à vocaliser attestée. Et finalement, avec Domingo dans Handel, tout le monde a dit « Ah, mais c'est absolument incroyable, il y a là une espèce de mouvement esthétique de sa part », alors qu'il avait en réalité débuté, enfin pas débuté, mais il avait déjà chanté des rôles aujourd'hui considérés comme baroques.
Absolument. Avec Beverly Seals.
Il avait chanté dans Hippolyte et Arissi. Il a chanté à Tel Aviv, il chantait régulièrement. Alors, c'est pas exactement le contemporain, mais enfin, c'est dans une mouvance déjà relativement similaire. Il avait chanté dans Ottavio, des choses comme
mais
ça.
Mais je rêve de l'entendre dans Le Retour d'Ulysse.
Puis Idoménée au Maître.
Il a chanté Idoménée au Maître.
Ce qui ferait pas un bel Orfeo aussi.
Sans les ornements du Possente Spirito.
Justement, Placido Domingo, 67 ans, qui apparemment est encore en pleine possession de ses moyens, est-ce qu'il y a d'autres exemples dans le chant de papy chanteur, outre les Rolling Stones, qui vous viennent à la tête ?
Oui, Hugues Cueno. Car Hugues Cueno a chanté jusqu'à l'âge de 101 ans, mais en fait, il aurait triché sur sa date de naissance, il était alors âgé de 127 ans.
On salue Hugues Cueno.
Parmi les papis chanteurs, il y a quand même Alfredo Kraus qui a chanté jusqu'à la dernière minute. Mm-hmm. Il y a Pavarotti quand même qui a arrêté sa carrière à 70 ans.
Alors on peut citer Michel Sénéchal.
Michel Sénéchal.
Qui depuis 60 ans, réussit à faire croire qu'il est chanteur.
Dans les papis en bon état, il y a Leonucci qui est pas tout à fait un papy, mais il doit pas être loin de ses 50 ans de carrière, absolument.
Tadei,
et avec un état un état vocal phénoménal.
Giuseppe Taddei qui chantait encore à 85 ans, qui est encore vivant malgré ses 94 ans, je crois.
94 ans, oui, c'est ça.
Ah, mon assistante me fait signe qu'il aurait en fait 95 ans.
Ça dépend de la date de naissance qu'on lui prête.
Et pour reprendre l'éditorial de Sylvain Faure sur Forum Opéra, Samuel Ramey qui chantait une utilité, ce n'est pas tout à fait une utilité, dans Le Barbier de Séville à l'Opéra Bastille, a encore de beaux restes à 65 ans.
Oui, mais enfin 65 ans pour une basse, c'est moins exceptionnel, surtout qu'on pourrait discuter à l'infini des restes vocaux de Samuel Ramey, qui pour certains sont très satisfaisants, pour d'autres posent de gros problèmes. Alors, avant de passer au disque suivant, qui sera, je l'annonce à nos auditeurs, Marius et Fanny de Vladimir Kosma, un grand moment en perspective, nous allons parler de grandes nouvelles. Nous allons évoquer quelques news. Alors la première news, et je voudrais savoir ce que ça vous inspire, probablement rien du tout, c'est la nomination de Michel Franck à la direction du Théâtre des Champs-Élysées en remplacement de Dominique Meyer. Alors Michel Franck, moi je ne le connais ni d'Ève ni d'Adam. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a quelque chose à dire sur cette figure?
Alors Michel Franck,
est-ce que c'est pas le petit-fils de César Franck?
Non, mais c'est pas le chanteur qui fait vibrer les mamies sur les scènes municipales. Non,
ça, c'est Franck Michael.
Ah oui,
Michel Franck,
d'ailleurs, qui est en tournée.
Et l'héritier de la dynastie Franck et fils.
C'est pas possible.
Oui.
Et donc lui bien, serait ça. Le fils de Franck et fils.
Voilà, il serait un des fils de Franck.
De César Franck.
Non, de Franck et fils.
De Franck et fils.
Il a d'abord, s'est d'abord occupé de l'administration chez Jeanine Rose Productions, puis il en est devenu progressivement le directeur artistique. Et c'est lui qui a lancé, plus ou moins, sur la scène parisienne, des artistes tels que Emmanuel Haïm, Jean-Christophe Spinozzi, Philippe Jarouski. C'est une OPA de Jeanine Rose Productions sur le Théâtre des Champs-Élysées qui est déjà bien alimentée par Jeanine Rose Productions. Donc c'est un changement dans la continuité.
Mais est-ce normal ? Je pose la question.
Mais il faut voir aussi...
C'est vraiment ce qu'on appelle une prise de contrôle rampant dans les milieux économiques. C'est-à-dire, peu à peu, on impose des programmes, on impose une intervention dans la direction, et puis finalement, on impose son bras droit à la tête du théâtre.
Enfin, ceci dit, connaissant le caractère de Dominique Meyer, et je dis ça de manière positive, c'est pas le genre d'homme à se laisser dicter quoi que ce soit. Donc, il y a peut-être une influence.
Enfin, Dominique Meyer est parti pour d'autres horizons. Je suis pas absolument certain qu'il ait imposé son successeur. J'en sais rien, mais enfin, à mon avis, il a tourné la page. Mais surtout, c'est un peu surprenant qu'une maison de production privée puisse comme ça mettre la main sur un théâtre amplement.
Les privés, ils font ce qu'ils veulent. Non, moi je voudrais vraiment lancer un appel au nouveau directeur du Théâtre des Champs-Élysées, parce que les grandes voies, c'est quand même très bien, ça permet de faire, et c'est le seul endroit à Paris ou presque où ça existe. En revanche, il faudrait qu'il y ait un peu plus d'imagination dans les programmations, parce que moi j'aime beaucoup Juan Diego Flores, son concert annuel est un rendez-vous, j'aime beaucoup Roberto Alagna, son concert annuel est un rendez-vous, mais il y en a d'autres à qui on peut proposer, oui. et qui peuvent décemment remplir les salles et faire découvrir soit de nouveaux chanteurs, soit des chanteurs déjà anciens qui n'ont jamais eu l'occasion de se produire en récital ou en concert à Paris.
Comme Michel Sénéchal.
Non, mais c'est vrai que le Théâtre des Champs-Élysées est devenu un peu une espèce de vitrine parisienne avec des grands noms très installés.
C'est trop cher.
Et c'est très cher. Mais surtout, ça a quand même été un théâtre où il était possible de découvrir des œuvres. Ça a été un théâtre un peu innovant, un peu pour les curieux aussi. Et là, on est en train un peu d'assister à une congélation institutionnelle du Théâtre des Champs-Élysées.
C'est une affiche promotionnelle. Dès qu'il y a un disque qui sort, l'artiste vient en faire la promotion au Théâtre des Champs-Élysées. Ce qui n'est pas tout à fait le cas de la salle Pleyel. Les récitals sont un peu plus variés par rapport aux sorties discographiques à la salle Pleyel.
Merci. Alors, deuxième fait d'actualité, la pétition lancée par Gabriel Baquier et Michel Sénéchal. On en revient toujours là-bas où tout commence. Sylvain, cette pétition donc, qui en gros dit qu'en France, rien ne va plus au niveau de l'insertion professionnelle des jeunes chanteurs, que tout est phagocyté par les chanteurs étrangers et que les chanteurs français ne savent plus où trouver de l'emploi. Vous avez largement réagi, Sylvain et Mehdi, à cette question sur Forum Opéra. On peut peut-être connaître votre point de vue rapidement sur cette question brûlante.
Mais plus qu'un point de vue, je crois qu'il faut vraiment faire quelque chose. Il faut faire quelque chose pour les chanteurs français et pas des pétitions. Quand on lit cette pétition, on voit très bien que l'idée d'une troupe, qui est l'idée vraiment récurrente depuis 20 ans, quasiment le lendemain de la suppression des troupes, tout le monde a dit il faut créer des troupes. Donc voilà. Mais il n'y aura plus de troupes. C'est-à-dire, il n'y a plus l'argent. Il n'y a pas les gens pour recruter les chanteurs dans les troupes. Il n'y a pas la connaissance des jeunes voix. C'est-à-dire que un directeur de théâtre aujourd'hui est incapable, en France, je dis, d'écouter un chanteur de 22 ans ou de 23 ans et de savoir ce qu'il sera à 30 ans. Ça, c'est un savoir-faire qui n'existe plus et qui existait un peu plus avant, c'est-à-dire du temps où effectivement il y avait des troupes et on était bien obligé de prévoir un futur à ces jeunes chanteurs, ça n'existe plus. Il n'y a pas l'argent, il n'y a pas le savoir-faire, il n'y a pas la volonté politique, et de toute façon il n'y aura plus de troupes, et ça n'est de l'intérêt de pas grand monde qu'il y en ait. Et le public a énormément changé. Le public veut des stars, le public ne veut pas des troupiers.
C'est peut-être le cas à Paris, mais un peu moins en province.
Mais en province aussi, en réalité. Regarde, les stars, c'est partout. Je veux dire, ensuite, on peut s'en payer ou pas s'en payer. Donc,
les stars qu'on peut, mais on veut des stars.
Voilà, on veut des stars. Donc, le public est habitué à des chanteurs qu'il connaît, qu'il a déjà entendu à la radio, au disque, etc. Ouais. Donc, bon, la situation, même moi, ce qui m'a beaucoup attristé, si j'ai une minute pour exprimer mon point de vue sur ce sujet, c'est la liste des signataires. Parce que dans ces signataires, il y a beaucoup de jeunes chanteurs, de chanteurs en carrière, issus du CNSM, issus de diverses institutions de formation français. Et ces jeunes chanteurs qui ont signé savent très bien qu'il n'y aura plus de troupes et ne peuvent, en fait, très réalistement, rien espérer. Ils ont donc signé cette pétition, non pas pour demander des troupes, et puis d'abord, beaucoup d'entre eux seraient peu qualifiés pour y rentrer parce que déjà trop âgés, déjà trop en carrière, etc. Mais simplement, ils disent on n'y arrive pas. C'est-à-dire, on n'arrive pas à vivre du chant. On croyait faire carrière, c'est très difficile. On a face à nous des chanteurs peut-être mieux formés, en tout cas plus appréciés, qui ont tourné dans le monde entier. Et on n'arrive pas à se faire notre place dans le pays qui pourtant nous a formés. Il faut quand même rappeler que c'est diplômé du CNSM. Le CNSM, c'est un établissement public. L'État, le contribuable, mais l'État prend la responsabilité de payer les études de chanteurs qu'ensuite il laisse littéralement à la rue.
Mais est-ce que ça, c'est pas un peu la règle du jeu?
Non. Je trouve que, par exemple, quand on sait que le Conservatoire national interdit aux chanteurs en scolarité de passer des concours internationaux, je dis c'est anormal. Alors, je veux dire par là que il est totalement anormal qu'on ne permette pas aux chanteurs de préparer leur sortie du Conservatoire national en leur permettant de passer des concours internationaux pendant leur scolarité. Il est anormal qu'il n'y ait pas des structures post-scolaires, post-académiques, post-universitaires, pour le dire dans un langage un peu technocratique, pour les chanteurs qui sont formés dans les structures de formation.
C'est un atelier lyrique à l'Opéra de Paris.
Voilà, l'atelier lyrique est plus, effectivement...
C'est une petite réponse.
C'est un peu le cas des opéras studios. Il y en a quelques-uns en France. Il y en a à Strasbourg, à Lyon, il y en a à Dijon.
C'est très limité. Enfin, c'est très, très limité.
Oui, mais... Oui.
Non, mais c'est très limité. Je veux dire par là que... Alors, je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est-à-dire que soit il y a deux solutions. Soit on prévoit un accompagnement professionnel des jeunes chanteurs qu'on forme, encore une fois, aux frais du contribuable et aux frais de l'État. Soit on prévoit leur insertion professionnelle. Et dans ce cas-là, on met en place des structures, éventuellement en faisant intervenir des structures privées. Pourquoi pas? Je veux dire, je prends un exemple. Mais je ne ferai pas long là-dessus. Mais quelqu'un qui passe son doctorat dans une université... généralement est ensuite trop qualifié ou trop vieux pour rentrer dans une entreprise privée, pour travailler. Donc, soit il devient universitaire à son tour et chercheur, soit il a beaucoup de mal à trouver une place dans le monde professionnel. Ce que le monde universitaire a inventé dans ce cas-là, c'est de créer de petites structures privées, généralement maintenant logées à proximité des universités et des laboratoires, où les docteurs, les chercheurs qui ont, développent dans une structure privée leurs idées, leurs concepts, ce qui est né de leurs recherches. Voilà. On pourrait tout à fait imaginer des structures un peu analogues pour les chanteurs, des petites troupes privées, financées sur fonds privés, avec des mécènes, des subventions privées, pour faire tourner ces chanteurs pendant un an en province, et faire qu'ils acquièrent une petite expérience de la scène, du concert, etc. Ça, c'est une proposition. Ou bien alors, comme tu le dis, Camille, on fait autrement, c'est-à-dire qu'on considère qu'il y a des opéras studios, que c'est bien suffisant, mais ces opéras studios ne sont pas en mesure d'accueillir tout le monde. Ils accueillent des Français, mais aussi des étrangers, et c'est très bien comme ça. Et dans ce cas-là, on crée un numerus clausus à l'entrée du conservatoire, et on dit, on formera chaque année 3 chanteurs, 4 chanteurs, 5 chanteurs, et pas plus, parce que le reste restera sur le carreau.
Il y a une chose avec laquelle je suis absolument pas d'accord, c'est que le numerus clausus qui frappe par exemple les médecins est objectif. On prend ceux qui ont les meilleures connaissances. Or, dans la question de la formation d'un chanteur, il y a l'argument des ressources naturelles du chanteur qui
absolument
peuvent se développer ou
c'est
non
ça
au cours de l'apprentissage.
Mais c'est pour ça que je ne suis pas pour le numerus clausus. C'est-à-dire, si on dit on fait déjà ce qu'il faut parce qu'on a une école d'art lyrique et des opéras studios, alors on fait un numerus clausus parce qu'il n'y en a pas. Y a
est-ce
pas de place
que,
pour
est-ce
tout le monde.
Une des solutions, ce ne serait pas de mieux informer les chanteurs de ce qui les attend? de leur donner dès la première année de conservatoire des cours d'introduction donnés par des producteurs de maisons de disques, des directeurs des maisons d'opéra, des agents, pour leur dire attention, ce que vous êtes en train d'essayer de faire, c'est à 90% de chance, aller droit dans le mur.
Mais Camille, un agent artistique qui ferait une conférence devant les élèves de première année du conservatoire, je parle de chanteurs, parce que le cas des chanteurs est très particulier, j'y reviendrai éventuellement, mais un agent artistique qui va dire aux jeunes chanteurs du conservatoire, vous savez, ça se passe comme ça, la carrière, il faut passer des concours internationaux parce que c'est quand même là que vous êtes repéré, et qu'après le chanteur se tourne vers le directeur du conservatoire, lui dit « Bonjour monsieur, je voudrais m'inscrire à un concours de chant international », et que le type lui dit « Mais c'est hors de question, pas avant 4 ans », je veux dire, on est quand même face à une situation très difficile.
Avant d'essayer de fermer le robinet pour éviter qu'il y ait trop de candidats, il faut peut-être avoir une position plus dynamique et plus offensive. Et c'est vrai que la part des Français dans les concours internationaux est hallucinante. Alors qu'il y a un grand nombre de Coréens, et je ne crois pas que le chant coréen ait une grande tradition.
Le dernier concours Reine-Elisabeth de chant a vu deux Français lauréats.
Ben c'était peut-être les deux seuls candidats, j'en sais rien. Mais dans les concours en Italie auxquels... auquel j'ai pu assister, il y avait pas de Français. Pas de Français. En Italie, c'est à quelques heures de train des villes de résidence de chanteurs français. Il n'y avait pas un Français candidat au concours auquel j'ai pu assister.
À voilà. Non, juste pour conclure, je voudrais souligner que le cas des chanteurs est extrêmement spécifique. Parce que les musiciens, les instrumentistes qui sortent des conservatoires ont un débouché naturel qui est l'orchestre. Et l'orchestre, c'est des concours d'orchestre, et il est tout à fait concevable qu'on forme des gens pendant 3-4 ans, et qu'ensuite ils passent un concours à la suite duquel ils sont recrutés ou pas par un orchestre. Mais il y a beaucoup de concours d'orchestre, il y en a tout le temps, ils sont nombreux dans le monde entier. Le chanteur, lui, est tout seul, il doit trouver un agent, il doit passer des auditions, même s'il passe des auditions, il n'est pas sûr d'être reçu, mais de toute façon, il ne passera pas d'audition s'il n'a pas d'agent. Donc c'est un cercle vicieux, et je demande la création d'une commission.
Voilà, merci. On n'a plus le temps d'en parler. Désolé, je sais que c'est un débat qui vous intéressait tous très fort. On va parler d'un autre fait d'actualité brûlant qui est plus dramatique. C'est le fait que Marie-Nicole Lemieux est tombée dans la fosse en répétant Falstaff au Théâtre des Champs-Élysées. Et elle s'est
rencontré Alessandro Corbel. Il avait un magnifique sparadrap parce qu'il s'était pris un coup de balai en répétant la première scène du premier acte.
Alors voilà, Falstaff, production maudite. Marie-Nicole Lemieux qui est donc tombée dans la fosse d'orchestre. Il s'est brisé la clavicule. Heureusement, il y avait personne dans la fosse d'orchestre. Donc Marie-Nicole Lemieux soit plus dangereuse en tombant que n'importe qui d'autre. Mais ça aurait pu être dangereux.
Tout le monde loue les qualités de la direction d'acteur, du metteur en scène, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, mais à quel prix ?
Ah oui, tout à fait.
il faut savoir que quand Marie-Nicole
va chanter avec la clavicule plâtrée,
ça c'est dur. Mais il faut savoir que quand Marie-Nicole Lemieux s'est présentée à la première répétition avec le metteur en scène, il a cru qu'elle venait pour chanter Falstaff.
Autre fait d'actualité brûlant, les 10 ans de la mort de Lucia Valentini Terrani, qui nous quittait donc il y a
exactement 10 ans.
Exactement.
Sauf si on nous a trompé sur sa date de naissance, qui ferait qu'elle serait morte il y a 17 ans.
Je ne suis pas spécialement d'accord avec ce calcul. Légèrement dadaïste. Alors, le décès de Lucia Valentini Terrani avait fait pleurer beaucoup de monde à l'époque. Surtout qu'elle mourait un peu en même temps que Lucia Pop, que Arlène Auger, qui formait un triumvirat de décès tragiques.
Ils étaient dans le même avion.
Pour dire un mot de Valentini Terrani, au fond, il n'y a pas tellement de successeurs. Hein. Eva Podles, d'accord, mais à part ça, on n'a pas retrouvé de mezzo, Eva Podles et puis Joyce Di Donato, mais à part ces deux-là.
Et Barcellona.
Non. Daniela Barcellona n'a rien à voir avec Lucia Valentini Terrani. La projection de la voix n'est pas la même, elle pourrait être 10 fois plus.
Et Philippe Jarouski.
Philippe Jarouski, quand il aura pris des hormones, pourra candidater à la succession de Valentini Terrani, mais en l'état actuel. Ce serait voilà. Plutôt le canari de Lucia Valentini Terrani.
C'est un contre-ténor opéré ou pas opéré ?
Alors, nous allons passer au disque suivant. Qui est la grande actualité du mois ? C'est la sortie de Marius et Fanny de Vladimir Kosma. Vladimir Kosma, pour moi, c'était le compositeur des films de Pierre Richard, Le Grand Blanc avec une chaussure rouge ou L'aile ou la cuisse, vous vous souvenez tous du générique. Peu importe.
Oui, la chaussure était noire.
Le 2, il y avait une chaussure rouge, non? Il y avait une suite avec une chaussure rouge parce qu'il tombait dans un pot de peinture, je me souviens.
Total.
Très distinctement.
Ici, la voix de Moscou, la chaussure est rouge.
Alors, tout à fait noir. En 2007, donc, Vladimir Kosma crée ce Marius et Fanny à l'Opéra de Marseille, œuvre sur laquelle il a travaillé plus de 3 ans. Il s'adjoint les services des Bonnie and Clyde de l'Opéra, alias Roberto et Angela. Alors, qu'en pensez? Pour certains, c'est une bouillabaisse au marshmallow. Ou pour d'autres, c'est un poignant hommage au génie marseillais de Marcel Pagnol. Sur Forum Opéra, notre ami Maurice Salle a signé une critique plutôt positive. Alors on va entendre pour l'instant un petit extrait. C'est un duo entre Roberto et Angela. Marius et Fanny de Vladimir Kosma, donc interprété par le bouillonnant Roberto Alagna et Angela Georgiou. Alors, après le bras d'honneur à la Scala, après le dernier jour d'un condamné, après les mises en scène des frères Alagna, après les airs d'opéra accompagnés à la guitare et aux cuillères folkloriques, est-ce que Roberto Alagna est devenu le porteur d'un certain mauvais goût français?
C'est pas français, c'est marseillais d'abord.
Et puis Vladimir Kosma n'est pas français.
En plus. Non, comme marseillais, je me sens interpellé par ce disque que j'ai écouté en détail. Et je trouve que finalement, le pire a été évité. Je crois que c'était un pari risqué, parce que créer créer cet opéra avec rien que des étrangers, l'opéra de Marseille, c'était pas évident. S'attaquer à un monument local, aimé et pas aimé d'ailleurs à Marseille, les gens par rapport à Pagnol sont assez partagés, hein. C'est pas le lieu local. Mais enfin, le pari était risqué. Roberto Alagna nous avait raconté à Forum Opéra les conditions de la genèse de cette œuvre quelques semaines avant sa création. On voit que les chanteurs avaient vraiment été associés à la composition et aux retouches de dernière minute dans la meilleure tradition des compositions discutées avec leurs interprètes. Et au final, je trouve que le pari est tenu parce que, un peu pour les mêmes raisons que celles que Maurice avait exposées dans la critique sur scène, même si au disque c'est un peu plus difficile. Il n'y a pas de caricature. En même temps, il n'y a rien de spécifiquement marseillais. Ça pourrait être Marius et Fanny à Bruges ou à Gand. Donc il n'y a pas de caricature. C'est pas une opérette marseillaise. En même temps, c'est pas très caractérisé. Alors du coup, ça s'écoute gentiment. Il y a des réminiscences pucciniennes, pucciniano, wagnero, cosmiennes. Alors vocalement, je termine juste. Vocalement, je trouve que c'est plutôt bien écrit pour les rôles titres. La distribution est bonne. C'est assez convaincant. Bon, j'ai toujours des réserves sur Jean-Philippe Lafon, qui était peut-être très bien sur scène dans le rôle du père, mais qui au disque était quand même à peu près inécoutable, à la différence de Marc Barrard, qui est un baryton méconnu et qui fait une très belle prestation. Mehdi ?
La question que je me pose à l'écoute du disque, moi qui n'ai pas assisté à la création, c'est est-ce qu'il y avait des récitatifs parlés qui faisaient le pont ? C'était juste ce continuum musical avec des airs qui se suivent les uns après les autres. C'est assez étrange. Moi, j'ai un peu eu l'impression d'entendre le générique de la saga de l'été, de la grande saga de l'été, en écoutant l'ouverture de cet opéra. J'avoue l'avoir écouté d'une oreille de plus en plus distraite.
C'est difficile, hein, parce que par rapport à ce genre d'œuvre, tout le monde se dit, voilà, les critiques vont être snob et méprisés. Mais forcément, le fait est que c'est un peu le genre de réflexe qu'on a envie d'avoir. Moi, ça m'a rappelé la bande originale du Roi Lion. Alors, il faut insister sur une chose, c'est que la bande originale du Roi Lion, c'est de la très bonne musique, mais il faut replacer ça dans son contexte.
Est-ce un opéra ? Est-ce une comédie musicale ?
Mais en quoi avez-vous besoin de caractériser ça ? Ça a été donné sur une scène, c'est manifestement pas un spectacle de Broadway avec des chanteurs sonorisés, etc. Donc c'est des chanteurs qui étaient sur une scène avec un orchestre, que vous baptisiez ça opéra ou opérette, parce que l'opérette est un genre noble. Bon, non, moi je trouve pas ça gênant.
Le fait de qualifier permet de savoir à quoi s'attendre, en fait. C'est vrai qu'il faut pas juger cette œuvre en se disant c'est un opéra, au sens où effectivement on est un peu déçu peut-être par le côté peu ambitieux de la musique. Au fond, il n'y a pas d'innovation particulière. Ça se voudrait plutôt, à mon avis, une comédie musicale un peu type Broadway, mais sans la danse, etc. Comme on faisait Broadway d'ailleurs très 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 généralement dans les années 50-60, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de girls dans ces comédies musicales, et il n'y en a pas dans Marius et Fanny. Moi, je trouve que Vladimir Cosma est un très grand compositeur de musique de film, au sens où qu'est-ce qui permet de le dire ? Ben, je crois que les films qu'il a fait, alors évidemment, c'est des films populaires, etc., mais c'est des films très drôles, très bien faits. On retient généralement la musique. Enfin, je suis sûr que si je vous passe la musique du Grand Blond avec, voilà, on s'en souvient. La Chèvre, on s'en souvient avec cette flûte de pan, etc. C'est un vrai trouveur de mélodies, de thèmes. Il a voulu dans Marius et Fanny faire la même chose, c'est-à-dire trouver des thèmes. C'est pour ça qu'il l'a ancré dans une réalité marseillaise sans en faire trop. C'est pas un compositeur de folklore. Et je trouve que ça, c'est très réussi. Il utilise des formes qui sont pas inintéressantes. Il y a le duo Lafon-Alagna avec le ragtime, une espèce de rythme de ragtime. C'est assez intéressant, c'est assez neuf. Je trouve que les chanteurs sont très très disciplinés. Enfin, je trouve qu'Alagna, par exemple, dont on entend un peu la voix différemment, c'est-à-dire que il joue vraiment sur le médium, le grave, et on sent une voix très, il a une voix très très dense. Il n'essaye pas du tout de tirer à lui la couverture. Je trouve ça très appréciable. Et au global,
globale, moi, peut-être que j'en juge mal, au sens où j'ai une affection toute particulière pour la comédie musicale, notamment américaine, mais je trouve ça très réussi.
Alors, quand on place ça dans la perspective des grandes comédies musicales américaines et anglaises, les œuvres de Sondheim, de Cole Porter ou de Rodgers et Hammerstein, est-ce que ça tient la route ou...
Moi, je trouve.
Oui, moi aussi.
Il manque un peu les moments... vraiment en chanteur, c'est-à-dire voilà, chez Rodgers et Hammerstein, il y a toujours un moment où ça décolle, où il y a un moment d'enthousiasme. Je crois que là, peut-être que vocalement, sur l'écriture vocale, Cosma a peut-être des progrès à faire, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore complètement le savoir-faire. Comment est-ce qu'on fait qu'une mélodie, qu'un air décolle?
Oui, voilà. Mais Roberto Alagna l'avait pas caché. En indiquant que, d'ailleurs, plus Angela que lui avait suggéré beaucoup de modifications dans les dernières répétitions, mais qu'il l'avait dit à demi-mot qu'il y avait des petits problèmes d'écriture qu'ils essayaient de rectifier. Mais je suis d'accord avec toi, il manque le moment que, dans d'éventuelles reprises, le public pourrait attendre, voilà, comme le moment clé de...
Alors justement, à propos d'éventuelles reprises, c'est une pièce de folklore français. Alors, est-ce que c'est une pièce franco-française ou vous la voyez s'exporter?
Non, Marius et Fanny est une œuvre universelle. Je crois que Pagnol est traduit dans un nombre de langues invraisemblables. Et donc c'est pas un obstacle. C'est pas un obstacle.
Un peu comme Les Misérables de Schoenberg, mais Les Misérables... Ça... Non, mais Les Misérables de... Non, mais de Jean-Michel Schoenberg, pas de... Les Misérables, ça s'est très bien exporté, à moins que ça ait été... Non, je crois que ça a été fait d'abord en français. Mais il y avait dedans Schoenberg, Jean-Michel, à lui un vrai savoir-faire, justement, dans le côté écriture vocale. Mais ça peut s'exporter, ça peut tout à fait se traduire. Et même, il est possible que la couleur locale ait été pensée pour l'exportation.
Voilà, alors maintenant, on va aborder notre dernier disque, qui est le disque de référence. Alors... C'est le récital de Chris Merritt. Chris Merritt a donné ce récital en 1987 à Vercelli. Je crois que c'est en Italie et pas en Pologne.
Et c'est un peu à l'ouest de Milan.
Il y a quelque chose à Vercelli, un théâtre?
Un théâtre communal, comme dans la quasi-totalité des villes italiennes.
Alors en quoi ce disque est-il de référence? C'est simple. En 1987, Chris Merritt incarnait avec Rockwell Blake une nouvelle école de ténor belcantiste. Au sommet de sa gloire, il grave ce récital live et enchaîne les airs de bravoure, comme d'autres enchaînent des adolescentes dans leur cave. Qui chante aujourd'hui, au cours de la même soirée, les deux airs des Puritains, le deuxième air d'Anna Bolena, le troisième air d'Edou et Foscari, le deuxième air de Tancredi, l'air d'Arnold dans Guglielmo Tell, pour ponctuer par la cavalette de Tonio dans La fille du régiment qu'il bisse? C'est parce que Chris Merritt est lui-même de référence qu'il s'agit d'un disque de référence. On écoute justement la... Ça mérite même des applaudissements. On écoute justement la cabalette de Tancredi.
Perdonate a un oppresso genitor, perdonate a un oppresso genitor.
Voilà, donc c'était la cabalette de Tancredi, du ténor dans Tancredi. Alors on se demandait tous pourquoi ce disque n'était plus dans le commerce, et il semble que Mehdi Madhavi ait la réponse qui me glace un peu le sang.
Oui, Chris Merritt a demandé à ce qu'il soit retiré du catalogue de... C'est Bon Jovi, je crois, qui le distribuait. Il a demandé à ce qu'il soit retiré du catalogue. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit, en tout cas, lors de notre entretien pour Alta Musica.
Très mauvais entretien d'ailleurs, je recommande plutôt, si vous voulez un entretien de Chris Merritt, d'écouter le podcast qu'a fait Sylvain Faure il y a quelques semaines. Donc c'est étrange parce que, bon, je vais vous donner la parole dans une seconde, mais c'est hallucinant ce témoignage, et on se demande pourquoi Chris voudrait qu'on l'enlève du catalogue de Bon Jovi. Jean-Philippe, toi qui es un rossinien émérite.
Ce disque est pour moi... synonyme d'émotion incroyable, parce que j'ai découvert Chris Merritt à peu près à la même période. Je l'ai vu en 89 à Pesaro dans un programme à peu près comparable à celui-là, dans un récital qui avait déchaîné complètement les foules là-bas. Et bon. Alors là, on est à Vercelli avec un orchestre qui est piteux. Enfin, c'est l'orchestre, j'imagine, du coin, qui joue faux, avec des décalages. Bon, peu importe. Mais le document est extraordinaire parce que unique. Parce que on peut pas trouver un ténor qui vocalise aussi bien, avec un ambitus aussi large, avec des aigus aussi tonitruants, et c'est ce qui faisait le caractère exceptionnel de la voix de Chris Merritt. Je dis faisait parce qu'évidemment on en est plus tout à fait là. Et il ne perdait pas pour autant un sens du legato vraiment convaincant dans l'air des puritains. On le voit très bien. Alors ici ou là, il y a des petits problèmes d'intonation parce que Chris avait quand même des problèmes avec la justesse assez régulièrement, mais bon, des petits problèmes en italien, mais le témoignage est exceptionnel. Et nos jeunes auditeurs qui ne se rappellent pas la Rossini Renaissance peuvent imaginer, n'est-ce pas, quand nous avions Rockwell Blake et Chris Merritt sur une même scène pour Othello à Pesaro, ça devenait une chose hallucinante.
Jacques Attali sortait de ce corps.
Ils avaient fait la même chose dans Donna del Lago à Milan, 3 ans plus tard. Bref.
Mehdi.
Non, c'est stupéfiant. C'est stupéfiant. Moi, je n'étais pas né, ou presque pas, au moment de la Rossini Renaissance.
C'est Placido Domingo, oui, par contre.
T'étais pas né en 1990.
Non, je suis né en 1982. Curieusement, j'ai découvert, c'est une carence absolue, mais j'ai découvert Chris Merritt chanteur après avoir découvert l'homme Chris Merritt, puisque j'ai eu le privilège de pouvoir m'entretenir avec lui pour Alta Musica, comme je le disais tout à l'heure.
Sans en avoir jamais entendu une seule note, c'est ça que tu es en train de dire.
J'avais déjà entendu Chris Merritt, mais plutôt dans les rôles de ce qu'il appelle sa troisième carrière.
Ça confirme tout le sérieux qu'on pense d'Alta Musica.
Bravo Alta Musica.
Mon fils garde ses frites pour après le steak, là, c'est pareil.
Et
le meilleur pour la fin.
J'avoue que j'avais été saisi par son interprétation d'Hérode dans Salomé, bien sûr. Je connaissais le passé bel cantiste, quand même, de Chris Merritt. J'avais entendu quelques extraits, mais pas comme ça, ce disque en entier, puisque, de fait, il est désormais introuvable. Et non, c'est proprement stupéfiant.
La virtuosité en musique m'a toujours profondément ennuyé, qu'elle soit chez Handel ou chez Rossini. Et ce que fait Chris Merritt, premièrement, j'ai du mal avec ce chanteur, parce que je trouve que son timbre n'est pas très attrayant. J'admire sa technique, j'admire ce qu'il fait, j'admire sa virtuosité, et ça ne m'intéresse pas du tout. C'est-à-dire que plus c'est virtuose, plus je m'ennuie. Et ça me fait exactement, ça me fait exactement la même chose avec Bartoli. Je vois la foule se lever de son siège progressivement, léviter quand Bartoli fait tomber les vocalistes du haut de la scène, et moi ça m'endort. Et j'en tire aucune vanité, ou c'est pas un snobisme de ma part, mais ça a toujours été comme ça. Chez Rossini, j'aime la partie, les parties les moins héroïques, c'est-à-dire que je préfère très nettement les opéras les moins héroïques, donc je n'aime pas l'opéra seria chez Rossini, sauf Guillaume Tell. Et puis voilà, donc je...
Pas du tout un opéra seria.
Oui, justement, c'est très discutable, c'est plutôt du grand opéra, enfin, bon,
à la française.
Peu importe. Mais l'opéra seria de Rossini m'ennuie un peu, beaucoup. Et ce que fait Chris Merritt, cet enchaînement de feux d'artifice vocal m'éblouit, mais me laisse un peu indifférent. C'est un peu comme ce que disait Julien Gracq de Proust. J'admire, mais je ne sais pas si j'aime ça.
Moi, j'aime ça parce qu'il y met un supplément d'âme que n'y met pas, par exemple, un Juan Diego Flores. Je me suis royalement ennuyé à un concert de Juan Diego Flores en me jurant de ne plus jamais y retourner. Mais là, il y a un supplément d'âme, il y a ce timbre très profond, ces couleurs baritonnantes, et puis soudain, cet aigu qui jaillit d'on ne sait où. C'est assez surnaturel.
On peut peut-être écouter justement une petite compilation de suraigus que j'ai fabriqué avec les moyens du bord. Voilà, donc la compilation de suraigus qu'on entend dans ce disque, il faut admettre quand même que c'est soufflant.
Il faut aimer la virtuosité, c'est clair, mais ce disque a aussi le mérite d'être un live, enfin, et le live, avec ses défauts, retranscrit ce qui s'est passé un jour J, un instant I. Et là, je dois dire que quand on était dans la salle, j'y étais pas à Vercelli, mais à d'autres moments, c'était quelque chose d'ahurissant et qui donnait vraiment, si on aime ça, les frissons, et là je suis d'accord avec ce qu'a dit Mehdi, que certes, les chanteurs d'aujourd'hui, et Flores en particulier, avec tout leur mérite, n'atteignent évidemment pas.
Avec tout leur mérite.
Oui, merci Sylvain de l'avoir noté.
Fantastique. Voilà.
Nous allons terminer, comme au dernier Cave Canem, par un petit tour de table des appétences culturelles de nos amis. Qu'avez-vous lu ou vu d'intéressant hors monde lyrique ces dernières semaines et que vous voudriez chaudement recommander à nos chers auditeurs? Jean-Philippe.
Eh bien, je viens de terminer le dernier roman de Tonino Benacquista, le Malavita 2, le retour en quelque sorte. J'aime beaucoup Tonino Benacquista, qui a beaucoup de talent, qui doit être très feignant parce qu'il produit très peu et ses livres se lisent assez vite, mais c'est plein d'humour, d'esprit, c'est bien écrit. Donc je le recommande chaudement.
Jean-Philippe, peut-être le pitch rapidement de ce roman, c'est intéressant, c'est une histoire de mafieux de New York.
C'est une histoire de mafieux avec une base législative très forte, puisque c'est
une base de baseball.
C'est l'application de la loi italienne sur les repentis qui permet de protéger ceux qui trahissent la cause et qui permettent ainsi aux enquêtes de se poursuivre. Donc c'est la reconstruction de la vie de ceux qui sont passés par là, et il y a plein de rebondissements très très intéressants. Et
Mehdi,
je ne vous conseillerais pas d'aller voir l'Orestie d'Eschyle, puisque c'est au théâtre de l'Odéon, mise en scène par Olivier Py,
qui a d'ailleurs été nommé directeur de ce théâtre,
qui est d'ailleurs le directeur de ce théâtre. Il s'agissait de sa première création dans ce théâtre, puisque la dernière a eu lieu il y a 2 semaines. En revanche, j'aimerais revenir sur une de mes lectures récentes. Ce livre est sorti l'année dernière, je crois, c'est Passages au pluriel du baroque à la Renaissance de Philippe Bossan. C'est un livre passionnant de bout en bout, mais il y a un chapitre qui est un véritable chef-d'œuvre à mon sens, c'est le dépeçage des noces de Cana de Véronèse, toile que l'on peut voir au Louvre. On entre véritablement dans la toile et c'est assez fascinant et édifiant.
L'éditeur ?
C'est chez Fayard.
Sylvain ?
Alors, ma dernière lecture, c'est l'excellent, excellent numéro double de Fluide Glacial ce mois-ci. Il y a d'un côté pour les hommes et de l'autre côté pour les femmes. Et j'étais très très confus parce que quand j'achète Fluide Glacial, c'est en cachette parce que je ne veux pas qu'on voit que je lis Fluide Glacial. Et alors, je le roule du côté pile, pour qu'on ne voit pas que c'est Fluide Glacial, mais qu'on aperçoive la publicité qui est derrière. Et là, c'est terrible parce que dans quelques bouts que je le roule, on voit la couverture, puisque c'est un numéro double, à double face.
C'est dans la traduction de Duino ou c'est dans la version originale?
Non, alors notamment, il y a cette petite bande dessinée qui m'a absolument fasciné en 3 cases. On voit un magicien qui est aux toilettes avec son chapeau claque, et puis il se rend compte qu'il n'y a pas de papier. Et alors, il a une idée lumineuse. Et il fait sortir le lapin de son chapeau.
Quelle horreur.
Et ça, c'est grandiose.
Voilà pour ma part, et afin de terminer en fanfare, je voudrais vous recommander le plus chaleureusement du monde d'aller voir le dernier Indiana Jones qui était injustement laminé par l'épice vinaigre de critiques du monde entier, alors que c'est un chef-d'œuvre absolu. On y voit des explosions nucléaires, des scorpions, des fourmis anthropophages, enfin tout ce qui fait la gloire d'Indiana Jones, et surtout un Harrison Ford plus sémillant que jamais. J'aurais dit 3 fois sémillant dans ce podcast. On essaiera d'en couper 1 ou 2 au montage. Merci à mes invités, Jean-Philippe Thielet, Sylvain Faure, Mehdi Madavi. Merci à notre ingénieur du son, Guillaume Robert. Merci à Yves Riesel de nous prêter ses splendides locaux. C'était donc le 2e volume de Cave Canem en direct de la cathédrale de Chartres. Bon dimanche!